vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
Brûlure acoustique, intoxication musiculaire, inflammation du tympan, le diagnostic est clair. Surconsommation, chanteur en bois et en plastique.
Mais c'est du chimique.
J'adore le chimique.
Pour tout ce prix d'aigu, variez ton musique au boulémie. Pour ceux qui en cachette, mate les clips de Laurie. Pas le choix, faut se mettre à la diète. Boycott, voici la recette. Mais attention à la chute, un as et ça repart. Un truc qui te fera danser dans les boîtes et les bars. Le jour où t'as le blues, t'es pas bien, t'en as marre, tu fais
chihuahua,
chihuahua.
Et ça redémarre. Du congelé, réchauffé, chaque été vite servi. Efficace comme les bonnes idées de Marie. Une chorégraphie simple, par quatre bons bien sexy. Désolé, j'aime la dinde, mais pas dans ma vie.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
On est devenus des consommateurs génétiquement modifiés. Compact d'expérience scientifiquement élaborée après des manipulations transgéniques multiples. Voilà qu'on se met à aimer la nouvelle pop star académique. On se met à regarder son dernier clip en boucle en secret pour pas se faire chambrer parce que c'est la honte quand même. Et même si c'est indigeste, même si c'est dégueulasse, avec un bon McDo et un verre de coca,
ça passe.
Et allongé dans notre canapé, on n'en perd pas une miette. On crie au scandale, mais pas question de changer de chaîne un peu. Comme quand on se met à mater l'île de la tentation un peu. Comme à l'époque d'Hélène et les garçons, mais bon, élevé à la soupe chimique et à la merde en grain. On nous gave, on nous conditionne, on nous engraine. Et même le consommateur plus averti se laisse mettre en boîte.
Mais c'est de la merde.
Ouais, mais c'est ça qui tourne en boîte.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
S'il fallait ingurgiter ce qui nous serve sur TF1, y a longtemps que j'aurais entamé une grève de la faim. C'est pas que je vais faire mon difficile, mon blasé, ma fine bouche. Mais ras-le-bol de leur soupe industrielle servie à la louche. De leur yaourt indigeste à dégueuler dans les chiottes. De leur nouvelle star en toc fabriquée dans un loft. Faudrait que José Bové à la rescousse vienne nous aider. Les artistes OGM mettent notre santé en danger.
Je veux l'artisanal, du bon pain au son à l'ancienne. Pas comme c'est du popcorn qu'on nous fabrique à la chaîne. Dans impérissable, à ne pas conserver plus de 3 semaines. C'est les Kleenex, t'achètes tout, t'écoutes et tu jettes. Emmenez-moi au bout de la terre, sur une île déserte. Pas de filles en bikini, pas de caméraman. Seul, avec mon Walkman, avec mes disques de Bob Marley, d'Aznavour et Réam.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
Pollution, je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Oui.
Bonsoir. C'est l'émission Zoom Écologie, alors c'est tous les jeudis soirs à 20h30 sur Radio FPP 106.3 FM et en streaming sur internet, rfpp.net. Et alors ce soir, c'est l'équipe du dernier jeudi du mois, ça s'appelle La Bande à Bébert et on a de la chance d'être ce soir être assez nombreux. Il y a Khaled.
Salut.
Élise.
Salut à toutes et à tous.
Cyril. À la console, et moi c'est Rebecca. Et ce soir, on voudrait parler d'un sujet qui nous passionne, parce qu'en fait, c'est un sujet, une de nos consommations, je dirais, assez principales aujourd'hui, c'est-à-dire les vêtements. Donc, tout ce qui est consommation, ça touche aussi à l'écologie. Et donc, on s'est posé la question, quel est l'impact des vêtements qu'on achète et donc, tout ce thème-là, c'est énorme, bien sûr. Donc, on va pas toucher à tout ce soir. Ça va peut-être être le premier de plusieurs émissions. Donc, pourquoi on a choisi ça et quelles sont nos préoccupations individuelles? Vous avez réfléchi un peu?
Moi, j'ai réfléchi tous les matins sous la douche.
En brasant.
Je commence.
Oui, vas-y, Élise.
Bah moi, ça fait un petit moment, je ne sais plus comment ça m'est passé par la tête, mais que je me pose des questions par rapport justement à ce qu'il y a derrière les vêtements qu'on achète. Je pense que c'est depuis que j'ai lu Nos logos de Naomi Klein, où justement, elle a un peu cette idée d'aller voir ce qui se cache derrière les choses. Et du coup, j'avais commencé à faire quelques petites recherches sur Internet et à tomber sur des images de rivières polluées, de champs pollués, de gens qui ont plein de maladies à cause des teintures, des produits utilisés dans l'industrie textile. Et du coup, voilà, à partir de là, j'ai commencé un peu une petite réflexion par rapport aux vêtements et à me poser plein de questions sur comment ne pas contribuer à cette industrie nocive pour la planète et nocive pour les ouvriers aux différents stades de fabrication de ces vêtements. Voilà, donc j'espère que ce soir j'aurai plein de réponses.
Khaled, est-ce que ça t'est préoccupé quand tu t'habilles le matin?
Alors moi je me posais pas trop de questions à l'époque, ça a commencé en fait à la fac, il y avait eu un collectif qui s'appelait De l'éthique sur l'étiquette et qui avait fait des campagnes en fait de sensibilisation pour obliger un magasin de sport qui nous invite à faire du sport, même dans son nom même, et ils avaient fait une pétition en fait pour demander justement à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus d'éthique, notamment en termes de commerce équitable, d'empreinte écologique en fait, donc derrière les étiquettes qui étaient commercialisées. C'est là où j'ai été confronté à ça la première fois. Après c'était plus en allant en rencontrant les milieux écolos qui eux se posent beaucoup de questions aussi sur ça, et notamment donc dans les milieux de la décroissance. Sur le fait qu'on importe en fait des vêtements d'autres pays qui viennent de très loin, et justement du coup la question c'était aussi de comment consommer moins et comment consommer mieux aussi donc ces vêtements là donc il y avait pas mal de solutions qui étaient apportées par rapport à la récup, par rapport au fait donc de gaspiller moins ces vêtements, des choses comme ça, et ne pas d'acheter, de jeter. Du coup, c'est revenu actuellement, surtout avec l'affaire du Bangladesh, parce qu'il n'y a pas que de l'environnement derrière les vêtements, il y a aussi tout ce qui est social. Et c'est vrai que, comme tout le monde, je pense, j'ai été assez choqué par ce qui s'est passé. C'est pour ça aussi, enfin, je ne suis pas le seul, c'est quand on a discuté tous ensemble que c'est revenu, on s'est dit, tiens, il faudrait quand même qu'on parle un peu des vêtements. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et puis aujourd'hui, là, maintenant qu'on est, c'est le deuxième jour, je crois, ou le troisième jour des soldes, non?
Je crois, je sais plus.
Enfin, je suis pas un adepte des soldes, donc du coup, je connais pas les détails. Et c'est pour ça que c'est vrai que derrière cette folie des prix bas où tout le monde va consommer, on s'est dit que c'était bien quand même de faire une émission là-dessus pour parler des vêtements et de ces choses qu'on consomme où il n'y a pas vraiment beaucoup d'éthique dedans, en fait, finalement.
Oui, parce que finalement, à travers nos achats, comme on s'est déjà rendu compte, avec l'alimentation notamment, je pense que beaucoup de gens sont très sensibilisés à ce que leur consommation et leurs achats puissent avoir un impact sur l'environnement, s'ils sont préoccupés par ça. Et les vêtements, c'est probablement... il suffit de regarder les enseignes, on voit très bien que c'est une production qui devient de plus en plus importante parce que les gens consomment de plus en plus de vêtements, comme si ça devient de moins en moins cher. Enfin, même si ça paraît cher, on peut se poser la question, quel est le vrai coût de ces vêtements en termes d'impact sur les gens, l'environnement, et donc toutes les préoccupations qu'on peut avoir par rapport à la nourriture, de consommer localement, sans pesticides. Est-ce qu'on peut vraiment faire pareil pour les vêtements? Aujourd'hui, c'est vrai que sur les étiquettes, on voit quand même normalement l'origine des vêtements. Mais je me suis souvent posé la question, c'est l'origine c'est là où les vêtements ont été fabriqués. Mais pour fabriquer ces vêtements, il y a quand même de la matière première. Souvent, j'imagine que quand même, L'origine d'un vêtement est quand même multiple et pas seulement d'un pays où tout s'est fabriqué dans une même usine. C'est difficile de savoir effectivement l'origine de ce qu'on achète comme vêtement.
Alors justement, donc, pour préparer cette émission, on a préparé quand même quelques petits points assez intéressants en fait, sur les vêtements. On pourrait en gros diviser, enfin voir ça en fait en quatre grands points, voire cinq. Donc il y a la question sur les matières premières, tout d'abord, donc tu en as un peu parlé. Donc bon, il faut savoir qu'une bonne partie de nos vêtements aujourd'hui sont faits à partir de fibres synthétiques. Donc là je m'appuie sur un article donc, trouvé sur internet qui parle de l'empreinte écologique des vêtements. Et donc justement, ils expliquent que les fibres synthétiques, c'est fabriqué à partir de pétrole. Donc c'est des sources non renouvelables qui ne sont pas locales, en tout cas pour nous, ça c'est sûr.
Ou que parfois quand même, ce sont des matières recyclées, n'est-ce pas? Quelquefois, les bouteilles en plastique sont transformées en polaire, par exemple, n'est-ce pas?
Et il peut y avoir
est-ce
aussi.
Est-ce que ça c'est moins? Est-ce qu'il y a moins
alors
d'impact?
Ça... Ouais, ça c'est plutôt à la fin justement quand on verra par rapport aux questions de recyclage. Mais là c'est vraiment au début, donc il y a la fabrication de ces vêtements qui et la matière première où on va les chercher. Et là c'est vraiment fait à partir pour la plupart de pétrole, avec une production très très énergivore, ou qui nécessite aussi qu'on mette des solvants dedans. Finalement, les fibres naturelles elles sont très très peu utilisées. Et bon, bien sûr, comme on sait, donc le pétrole, c'est aussi une matière plutôt rare. Il y a même des guerres à cause de ça. Et on est aujourd'hui donc face à une ressource donc qui est de plus en plus rare et qui crée en fait donc de plus en plus de déséquilibre sur la planète, mais aussi par rapport au changement climatique. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'attarder. Donc il y a un recyclage donc, qui est fait à partir des bouteilles en plastique. Après je n'ai pas vraiment les chiffres là-dessus parce qu'en fait il y a aussi un recyclage qu'on peut dire aussi du vieux linge qu'on peut transformer en tapis d'automobile, en isolant, en feutre pour bottes ou même donc en papier monnaie pour certains. Donc là-dessus, il peut y avoir aussi une action aussi de recyclage de ces vêtements-là, enfin, pour qu'ils redeviennent un nouveau produit après. Et il y a aussi donc, beaucoup de vêtements qui sont faits en coton, donc là-dessus, qui sont en fait pour la plupart, donc, où il y a beaucoup de pesticides donc, qui est présent dedans, et donc il y a plus de 10%, le coton, en fait, la culture de coton consomme donc, plus de 10% de pesticides, et 25% des insecticides mondiaux. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Mondialement.
Et pour quelle surface d'agriculture?
Alors là, je n'ai pas les détails pour la surface totale d'agriculture.
Mais je pense qu'effectivement, ça consomme beaucoup plus que ça part de pesticides que les autres agricultures dans le monde, n'est-ce pas?
Certainement, mais je n'ai pas les chiffres là-dessus et je ne peux pas trop sourcer là-dessus. Mais en tout cas, il y a une bonne partie en fait, du coton aussi. Et là aussi, c'est aussi une difficulté de traçabilité. À ce niveau-là, parce que c'est vraiment dans une économie mondialisée où c'est très complexe, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont assemblées un peu de partout. Il y a beaucoup de coton, en fait, justement, qui est utilisé aussi à base d'OGM. Et là, donc, on sait très bien que les OGM, il y a pas mal de problèmes, notamment donc, pour les paysans, à ce niveau-là, où il y a un article donc, en 2009 sur lesmotsentunsens.com qui explique qu'en fait, qu'il y a eu en Inde, par exemple, 1500 fermiers qui se sont suicidés dans une province où il y a eu donc un phénomène récurrent, donc avec des chiffres officiels qui indiquent plus de 1000 suicides mensuels depuis 15 ans, ce qui est quand même assez énorme. Et là, on voit bien en fait que les effets néfastes, en fait, c'est dû surtout à l'endettement des paysans via en fait les firmes multinationales comme Monsanto en fait, qui donc les endettent, parce qu'en fait quand on plante un OGM, on est obligé de racheter la semence pour en ressemencer.
Et puis j'ai aussi entendu parler par rapport à cette histoire qu'il y a justement une certaine sorte de graines d'OGM de coton qui justement a échoué et ça a fait foirer beaucoup de récoltes. Et ça aussi c'était la cause d'encore des suicides. Monique Robin en a parlé dans son film sur Monsanto justement.
Oui, donc il y a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Il y a aussi donc dans un article donc plutôt par rapport à la fabrication, où en fait les filtres qui sont récoltés, donc pour les rendre donc plus résistants au tissage, on utilise aussi de la colle. Donc on est sans coller aussi, donc on utilise aussi des matières chimiques là aussi. Et le tissu, donc, il est teinté avec des produits donc, composés de sulfure et de métaux toxiques. Donc ça, on pourra en parler dans l'interview qui va suivre, hein, plus en détail sûrement. Et parfois, ils sont déteints et blanchis avec du chlore. Donc là aussi, donc, il y a une pollution à ce niveau-là, dont la fabrication elle-même. Et donc la plupart donc, de ces tissus proviennent donc, de pays où il n'y a pas de station de traitement des eaux. Donc il y a beaucoup de pollution des eaux. Et je pense que Élise a des choses à nous dire là-dessus.
Ouais, alors moi, je me suis inspirée d'un article d'Audrey Garrick à partir d'une étude de Greenpeace, parce que Greenpeace avait à un moment une campagne sur justement les vêtements toxiques. Et en fait, en Chine, dans la province de Guangdong, au sud-est du pays, donc il y a, je parlais par exemple de deux villes. Donc une ville, Xintang, qui est la capitale du monde des jeans, et Gurao, qui est une ville industrielle sont confectionnés énormément de sous-vêtements. Et en fait, Xintang a produit par exemple en 2008 260 millions de paires de jeans, soit 60% de la production totale de la Chine et 40% des jeans vendus aux USA chaque année. 40% de ces jeans sont exportés en Amérique, en Europe ou encore en Russie. Et en fait, il y a des usines donc partout dans cette ville, ainsi que plein de petits ateliers familiaux. Voire des fois, il y a des usines qui ont pignon sur rue et d'autres qui sont un peu des petits ateliers clandestins autant les adultes que les enfants et les personnes âgées participent à la fabrication de jeans. Et alors je trouve, en fait, une militante de Greenpeace a récolté un échantillon d'eau d'une rivière et ils y ont trouvé la présence de 5 métaux lourds, à savoir du cadmium, du chrome, du mercure, du plomb et du cuivre, dans des quantités qui sont supérieures aux normes autorisées dans le pays. Et donc la chargée de campagne produits toxiques pour Greenpeace déclarait à l'époque que les procédés de teinture, de lavage, de blanchiment et d'impression sont quelques-uns des plus sales de l'industrie textile, nécessitant de grands volumes d'eau ainsi que des métaux lourds et autres produits chimiques. Et on voit des photos avec des rivières qui sont complètement bleues, où là du coup, l'eau c'est quand même la vie, donc une eau polluée avec des métaux lourds et des teintures, donc c'est plus de possibilités d'utiliser cette eau, par exemple pour se nourrir ou pour cuisiner. Et donc là, pour Gurao, qui est surnommée la capitale du sexy, où il y a beaucoup de fabrication, d'ateliers de fabrication de sous-vêtements, où si les enfants travaillent lorsqu'ils n'ont pas école pour à peu près 2-3 euros la journée. Il y a aussi énormément de pollution de l'eau. Les villageois estiment que la rivière qui passe dans cette ville est sale et polluante. On y retrouve aussi des problèmes de peau et liés à la reproduction. Problèmes de stérilité et de peau sur les personnes, soit qui travaillent, soit qui vivent, puisque généralement le cours d'eau passe aussi à côté de maisons. Donc voilà pour une petite synthèse sur la Chine.
Donc oui, le made in China, comme on dit.
Voilà, made in China.
Donc il y a aussi donc dans la fabrication, on peut voir aussi donc d'autres problèmes. Par exemple, même si on a du coton qu'on a acheté bio, qui est fortement conseillé, qui est assez fortement conseillé, en fait, en général, souvent en fait dans le processus de fabrication, on utilise en fait des colorants chimiques ou des matières chimiques. Donc quand on achète un produit qui est issu de coton bio, finalement il n'y a pas de certitude parce qu'il n'y a pas de label bio sur vraiment la filière des vêtements pour réglementer tout ça. Donc là aussi il n'y a pas vraiment beaucoup de traçabilité. Et pareil, en termes de transport, c'est très très dur d'avoir des chiffres parce que les matériaux sont confectionnés, le tissage est confectionné dans un pays, le découpage d'un tissu parfois dans un autre pays, la sérigraphie dans un autre et l'assemblage dans un autre pays. Donc c'est vraiment très 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 complexe.
J'ai ouï dire, mais je n'ai pas de preuve, qu'il y a même des fois des cas où les vêtements sont fabriqués sur les bateaux pour économiser du temps. C'est-à-dire que les ouvriers sont dans le bateau. le temps de la traversée, ils confectionnent les, voilà, les vêtements. Et puis, comme ça, c'est tout bénef pour les entreprises.
La division rationnelle du travail, pour économiser du temps, on va jusqu'au bout.
Enfin, donc, madame, je crois qu'on a. Le téléphone sonne.
Oui, et le téléphone sonne. Les osées, ça part tout de suite dans la mer à ce moment-là.
Ah.
Ouais. Bon, donc, en fait, on a donc une. Ouais. Une invitée spéciale ce soir qui va nous informer sur, j'espère, plusieurs choses, mais notamment son... Elle s'appelle Elisabeth Ruffiningo et elle est de l'association Women in Europe for a Common Future. Et elle est surtout préoccupée par l'impact des polluants qui se trouvent sur les vêtements, sur notre peau, notre environnement à nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Donc, vous venez donc de Women in Europe for a Common Future. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots, s'il vous plaît?
Oui, alors nous sommes un réseau européen d'ONG féminines et environnementales qui travaille pour garantir à toutes et tous un environnement sain. Et on travaille notamment sur les produits chimiques et leur impact sur la santé. Donc c'est dans ce cadre qu'on a développé notamment un projet qui s'appelle le projet Nesting, qui est destiné à aider les parents à créer un environnement plus sain pour leurs enfants. Et dans ce cadre, on a travaillé notamment sur la question des jouets, des substances chimiques et également en particulier des perturbateurs endocriniens. Donc ces substances qui vont interférer avec notre système hormonal. Donc c'est une de nos grosses actions cette année, également sur l'année 2012. Et notre particularité, c'est qu'on travaille aussi au niveau européen. Et donc, ça nous permet d'utiliser les données européennes issues, par exemple, de tests de produits de consommation pour essayer de faire avancer les choses à la fois au niveau national et également au niveau donc plus européen.
Au niveau européen, quel est le constat actuel sur les perturbateurs endocriniens? Déjà, au niveau des pathologies que ça crée, hein, est-ce que c'est clairement prouvé à ce niveau-là qu'il y en a déjà dans les vêtements, dans les produits de consommation? Et quelles sont les conséquences aujourd'hui au niveau scientifique qu'on a prouvé?
Alors, les scientifiques, au départ, c'est vrai, ça fait déjà plus de 20 ans que les scientifiques alertent sur le sujet des perturbateurs hormonaux. Et maintenant, en 2013, on peut dire qu'il existe vraiment des données concordantes, par exemple au niveau international. On a l'Organisation mondiale de la santé qui a sorti un rapport conjoint avec le programme des Nations unies pour l'environnement récemment, qui a donc montré qu'il était temps maintenant de passer à l'action sur ce sujet, puisqu'on sait qu'ils sont mis en cause dans beaucoup de pathologies, par exemple l'obésité de l'enfant, le cancer également, tout ce qui est troubles de la reproduction qui touche des couples de plus en plus jeunes, également certains cancers comme le cancer du sein et d'autres. Donc on sait qu'ils ont des effets très larges. Et actuellement, donc l'Union européenne prépare une stratégie sur ces perturbateurs endocriniens pour le mois de septembre. Et la France a pris de l'avance, disons, sur les autres États, puisque un groupe de travail vient de clôturer donc des débats sur l'élaboration d'une stratégie au niveau national, à laquelle on a participé avec d'autres organisations comme le réseau Environnement Santé, avec qui nous travaillons très en lien sur ces sujets-là. Et on a notamment insisté, nous, sur l'aspect de réduction des expositions des populations sensibles, comme les enfants, et également sur l'information fiable que le public doit avoir à disposition pour pouvoir ensuite mieux se protéger. Étant conscient qu'on ne peut pas éviter toutes les expositions, mais que sans être informé, on risque de s'exposer encore bien plus. Donc les actions...
Concrètement, c'est quoi un perturbateur endocrinien? Est-ce que c'est quelque chose qui va être respiré, qui va être au contact avec la peau? Que vous pouvez préciser un petit peu ce que c'est concrètement, parce que j'ai un petit peu du mal à voir.
Oui, c'est vrai, quand on connaît pas forcément ce domaine-là, c'est assez technique. Alors en fait, ça peut être présent dans notre environnement en général, c'est-à-dire à la fois dans des produits de consommation courants, donc par exemple des jouets, des vêtements également, puisque là on parle des textiles. Ça va être présent par exemple dans des produits électroniques, dans de l'alimentation également sous forme de résidus de pesticides par exemple. Et on va en trouver donc également dans l'environnement, dans notre eau, dans l'air. Donc on peut être exposé par la peau, on peut en respirer. On peut aussi donc en boire en avalant par exemple notre eau qui est contaminée. Enfin, malheureusement, les sources d'exposition sont multiples Et donc, c'est pour ça que plein de petites doses de substances, comme le bisphénol A, je pense que ça dira quelque chose aux auditeurs, c'est ce fameux composé du plastique rigide qui était utilisé dans les biberons et qui est aujourd'hui interdit en France. Donc ça, c'est un exemple de perturbateur hormonal. Et donc, c'est des substances chimiques qu'on trouve, en fait, qui sont ajoutées à des produits ou ensuite qui sont relâchées dans l'environnement à cause de processus industriels ou même parce qu'on les utilise, nous, et qu'ensuite, ils sont, par exemple, lessivés, c'est le cas des textiles. Et quand on lave nos textiles, par exemple, certains composés comme des composés de nonylphénol, en fait, vont partir dans l'environnement, donc vont contaminer notre eau.
Oui, Elisabeth Refinango, donc justement, tout à l'heure, vous parliez un peu de tout ce qui concerne les politiques publiques. Moi, j'avais vu un communiqué de presse, justement, récemment, qui avait l'air plutôt pessimiste, un peu au niveau de ce qui se passe en ce moment au niveau gouvernemental, un double langage ou des allées en avant et puis en arrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, justement, de ça?
Oui, alors c'est vrai que c'est une chose de faire une stratégie. C'est une bonne chose, évidemment, par rapport à des pays où il n'y en a pas du tout. Mais ensuite, la volonté politique est quand même quelque chose de très important. Et c'est ce qui fait la différence dans la qualité du document qui sort des négociations. Et nous, on a participé donc à ces débats en toute bonne foi. Et on a eu beaucoup de mal à faire passer certaines demandes qui pourtant nous paraissent vraiment refléter les demandes du grand public, comme le besoin d'information. Pour l'instant, il n'y a pas de données très claires sur ce qui va être fait. Également, en fait, si vous voulez, le texte qui va être adopté est assez timide. Et c'est plutôt c'est un peu décevant après, quand on voit la quantité, en fait, de données scientifiques accumulées sur le sujet, on a envie d'avoir des actions bien plus fermes. Par exemple, on a envie d'interdire certaines substances et de ne pas attendre de nouvelles évaluations, puisque nous, on considère que pour certaines d'entre elles, par exemple 22 qu'on avait identifiées avec des ONG européennes en 2011, pour ces 22-là, pour nous, il est déjà temps d'agir. On les connaît bien, on sait où elles se trouvent et on sait comment réduire l'exposition. Donc nous, on souhaiterait en fait qu'il y ait tout de suite des actions rapides. Et c'est un peu cette stratégie, pour l'instant, elle remet l'action à plus tard. Et malheureusement, c'est un peu une tendance au niveau politique de repousser l'action sous prétexte de manque de données suffisantes. Et ça, c'est un peu récurrent dans les politiques de santé environnementale. On le voit pour les perturbateurs endocriniens, on le voit également sur d'autres domaines, le débat énergie qui a lieu en ce moment. Dès que les données sont complexes, on se réfugie en fait derrière la fragilité soi-disant de ces données, alors que les scientifiques brillants au niveau international nous donnent vraiment des données suffisamment claires pour permettre d'agir dès aujourd'hui.
En gros, il doit y avoir quand même aussi un gros lobby sur les politiques à ce niveau-là. Et au niveau des recherches qui sont menées, j'ai pu comprendre qu'il pouvait y avoir une contribution financière donc des entreprises génératrices de risques chimiques, selon vous.
Alors nous, on souhaiterait en fait que actuellement, si vous voulez, les risques sont supportés par la population. C'est-à-dire que la mise sur le marché d'un composé dangereux, elle implique pas forcément, elle implique pas en fait l'application du principe pollueur-payeur. Et ce principe, il a une valeur constitutionnelle. Donc moi, je suis juriste pour cette association WCF, et c'est vrai que ce principe n'est pas appliqué. Et actuellement, c'est un problème puisque les populations supportent les coûts. Elles supportent donc d'abord le coût simplement d'achat du produit. Ensuite, si elles tombent malades à cause de certaines expositions, donc pas seulement, mais en partie à cause des expositions, elles vont aussi supporter les coûts financiers des traitements, et l'ensemble des contribuables va supporter tout ce qui est coût sanitaire. Sans parler non plus de tout ce qui est coût pour la société dans son ensemble. Par exemple, des pertes de points de quotient intellectuel d'enfants qui sont exposés à des substances neurotoxiques, c'est aussi une perte pour la société dans sa globalité, et en plus ça met en péril les adultes de demain. Donc c'est des coûts qui sont pas en fait intégrés dans les évaluations actuelles. Et le fait de ne pas les voir dans les évaluations, c'est un peu une façon de les nier, et donc ensuite de parler uniquement du coût économique pour l'entreprise, donc l'opérateur, de mettre en œuvre par exemple le remplacement de substances dangereuses. Et comme on écarte tout un pan en fait des coûts liés à ces pollutions, c'est aussi une manière de biaiser en fait la vision du problème. Et ensuite, c'est plus facile de faire comprendre qu'on n'a pas pu mettre en œuvre parce que c'était trop cher pour nous. Et on verse une petite larme, voilà. Et ce discours continue aujourd'hui. Et malheureusement, les associations, et on n'est pas les seuls à travailler sur ce domaine-là, n'arrivent pas encore à se faire suffisamment entendre sur ce sujet.
Et justement, là, donc aujourd'hui, on est un peu. Il y a des soldes actuellement. En plus, il y a tout le monde qui achète plein de choses un peu partout. C'était un peu la base de pourquoi on a fait cette émission. Et du coup, vous, à WECF, est-ce que vous avez des choses où vous vous dirigez vers les consommateurs pour les aider à s'y retrouver dans ce monde-là? Comment vous agissez pour sensibiliser, si vous avez des actions de sensibilisation, bien sûr?
Oui, alors justement, on a deux types d'actions au niveau du réseau. C'est à la fois donc des actions de plaidoyer, donc c'est défendre des positions lorsque les lois sont votées. On le fait en France, en Europe, et on le fait aussi au niveau du suivi de négociations internationales qui ont un impact sur la vie quotidienne en fait de tout un chacun. Et on fait beaucoup de sensibilisation puisqu'on est aussi un réseau féminin et on a une approche donc féminine, donc plutôt pratique. On a mis en place par exemple des ateliers pour les parents, des ateliers interactifs où ils peuvent apprendre des choses sur les produits qu'ils consomment au quotidien. Donc ça, c'est plutôt des ateliers qu'on appelle nesting, qui sont maintenant aussi déclinés sous une forme qu'on appelle Ma Maison, Ma Santé, qui s'adresse à des publics qui ont, par exemple, qui sont en situation socialement plus défavorisée et qui ont moins de facilité aussi à comprendre les choses et à trouver la bonne information, parce que c'est pas facile. Donc on essaye de les aider à décrypter la composition des produits, les gestes simples à adopter pour se protéger. Et on édite, par exemple, des petits guides. Des guides de poche, donc on en a sorti un récemment sur les perturbateurs justement hormonaux le 19 juin, donc il est tout récent. Et on en a déjà plusieurs, donc sur les jouets, les cosmétiques bébés, les produits ménagers. On a également couvert les champs électromagnétiques, donc c'est assez large. Et donc les textiles, ce sera un sujet qu'on va aborder dans notre prochain guide en septembre, puisqu'on travaille sur un rapport sur les textiles pour enfants. Et d'ailleurs, pour donner un petit exemple des données qu'on utilise dans ce travail, c'est par exemple des tests menés en Allemagne par le magazine de protection du consommateur EcoTest sur des jeans pour enfants. Et donc, ils ont testé 20 jeans, donc c'est assez récent, ça date de cette année. Et sur ces 20 pantalons, il n'y a pas un seul d'entre eux qui a obtenu en fait la note bien ou très bien. Et quand on voit ce résultat-là, on est quand même assez interloqué parce que c'est justement des produits textiles pour enfants. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment que les enfants soient encore mieux protégés que les adultes, qu'ils n'ont pas la capacité de faire des choix en connaissance de cause. Et on voit que c'est malheureusement, c'est pas le cas. Donc je peux peut-être donner quelques exemples de ce qu'on trouve dans ces produits pour mieux faire comprendre en fait. Le problème, c'est que les petites doses de substances qu'on trouve dans un produit, ça va être une petite dose dans un jean, une petite dose, par exemple, dans un puzzle. Donc, on va en respirer un peu, on va en avoir un peu sur la peau, on va en laver un peu quand on lave son pantalon et qui va ensuite partir dans l'environnement. Et tout ça, ça va faire finalement une dose suffisamment importante pour parfois inquiéter, en tout cas, sur la santé de l'enfant. Donc, il y a un produit, par exemple, qui s'appelle le formaldéhyde. C'est utilisé comme solvant en fait dans l'industrie textile et c'est utilisé également en fait dans les tapis puzzles, dans les cols des puzzles en bois et on en trouve donc c'est un polluant prioritaire de l'air intérieur et il est cancérigène et irritant des voies respiratoires. Donc il est bien connu et en fait on continue à en trouver dans des produits courants. Mais c'est pas le seul exemple, malheureusement. Bon, le formaldéhyde, c'est un exemple. Vous en avez d'autres. Vous avez, par exemple, des allergènes dans des produits textiles. Vous avez aussi, on en parlait tout à l'heure, ce qu'on appelle les éthoxylés de nonylphénol. Donc ça, c'est des substances qui sont des perturbateurs endocriniens et dont on trouve parfois des traces dans les textiles. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas dans tous les textiles non plus qu'on en trouve. Ça prouve que des procédés existent pour les remplacer. Donc ça, c'est le bon signe. Après, il faut encore que ce soit mis en œuvre de manière globale et sérieuse.
Bah, merci beaucoup, Elisabeth. On va continuer la discussion juste après une petite pause musicale. À tout de suite.
Merci.
Xavier Mathieu, donc le propriétaire de l'entreprise. Je vous avoue qu'on a un peu de mal en ce moment depuis qu'ils ont appris qu'on vendait l'entreprise, mais ils sont très serviables, très dociles, très courageux. Bonne équipe. Je vais vous les présenter. Je sens qu'on va en tirer un bon prix.
C'est clair.
Toute mon vie j'ai travaillé. Zodico ça, moi la gagner. Toute mon vie j'ai travaillé. Demain peut-être lui va aller. Toutes ces années, moi la travail, l'usine. Équipe de nuit, mon santé, Léon Win. Les 3-8, les durs droits sans enfants. Tiens, pot de voûte, mais où compte plus le temps. Malgré les durs, dans mon malheur, mille est là. Zamé en retard, même dans mon tracas. Mon peine devant, de monde, moins mi cachette. De mamie, va devoir payer mon dette. Toute mon vie, j'ai travaillé. Zori Kossa, moi l'a gagné. Toute mon vie, j'ai travaillé. Au revoir, Pouli n'a point de problème. Sans dire merci, sans faire un désordre. Mes cochons, ils commandent pas la corde. Kosami, ça va faire maintenant. Moi, elle est trop vieux, moi, elle est trop lent. Plus assez rentable, Asta m'imagine. M'y vaut pas plus qu'un machine. Toute mon vie, j'ai travaillé. Zordi Kosa.
Je veux pas travailler.
Je pense qu'on va faire de tout ça.
C'est écologiste.
Oh, regarde celui-là là-bas, regarde.
Quand je pense qu'il voulait faire un syndicat, tu te rappelles?
Oui.
Franchement, ils sont salariés de la boîte.
Et on les paye.
Nous pourrions bien aller passer le temps. Pas de carré là-haut avec nos enfants. Mais la traite, c'est pas pour nous maintenant. Moi, la pacotise assez longtemps. Toute mon vie, j'ai retroussé les manches. Le même refrain du lundi au dimanche. Monde la charité, m'y connaît pas nawa. Moi, elle est trop vieux pour être un cagnard. Toute mon vie, j'ai travaillé. Joli que ça.
C'était quoi la musique, les amis?
C'était HK et les Saltimbanques. Toute mon vie, j'ai travaillé. Voilà, sur les gens qui passent leur vie à travailler pour gagner. Quoi?
Toujours moins.
Donc, là, c'est vrai que au début de la chaîne, on peut être préoccupé par les petits enfants qui travaillent dans des conditions insalubres. Bon, avec Elisabeth, on va plutôt s'occuper des enfants chez nous, bon, de l'autre côté de la planète. Et oui, Elisabeth, donc on voulait poser la question. Donc, est-ce qu'il existe des labels qui permettent de bien choisir des vêtements ou des produits de puériculture ou pour adultes qui n'ont pas ces produits perturbateurs dedans?
Alors, concernant les labels au niveau textile, il existe déjà beaucoup, beaucoup de labels. Après, la fiabilité des uns et des autres n'est pas toujours la même. Et justement, dans le travail qu'on fait, qu'on prépare pour septembre, on va avoir toute une partie du rapport sur les labels des vêtements pour enfants. Donc pour l'instant, on n'a pas encore terminé cette étude-là. Mais on peut déjà dire qu'un label qui donne une indication, c'est le label Ecotex 100 ou 1000. Donc celui-là, vous le trouvez à la fois sur des jouets textiles ou sur des vêtements, adultes ou enfants. Et il répond quand même à un cahier des charges exigeant qui limite ou qui interdit la présence de certaines substances, donc parmi celles qu'on a citées tout à l'heure, donc qui sont soit connues pour leurs effets sur le système hormonal, soit pour d'autres effets. Donc là, déjà, ça donne une piste sur ce qu'on peut ne pas trouver dans ces vêtements. Le problème, c'est que la chaîne du textile est très longue et le tissu est travaillé de nombreuses fois avant qu'il soit porté. Donc la complexité de la chaîne rend le contrôle difficile. Et d'ailleurs, on voit ça pas seulement pour le textile, mais également pour ce qui est les jouets. Parce que les jouets, c'est aussi des produits complexes. Et on voit que plus la chaîne est complexe, longue, et plus le contrôle est difficile. D'autre part, c'est la question des moyens de contrôle qui sont mis à disposition par rapport au flux de marchandises. Donc évidemment, on sait très bien, même en France, que des services comme la DGCCRF n'ont pas les moyens de contrôler, ni les moyens techniques, ni les moyens humains suffisants pour contrôler, par exemple, les marchandises importées, puisque le textile est un marché d'importation. Donc là ça donne déjà les limites. Il existe d'autres labels également, mais c'est vrai que celui-là, c'est celui qui me vient à l'esprit, le premier, donc Ecotex. C'est déjà quelque chose qui peut vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie. C'est, c'est toujours difficile de dire plus, sachant qu'il y a quand même la majorité des textiles vendus, par exemple, dans les grandes surfaces, ne sont pas labellisés de cette manière-là. Et vous avez également les labels, les écolabels européens. Donc c'est un label sous forme de fleurs. Et donc en ce moment, ils sont en cours de révision. Et d'ailleurs, avec des collègues d'ONG, on porte des demandes pour exiger que certaines substances soient interdites dans ces textiles, comme par exemple les retardateurs de flammes bromés, qui sont reconnus pour leur toxicité et qui, à ce jour, ne sont pas prévus en termes d'interdiction dans cet écolabel. Donc là-dessus, c'est pareil, il faut toujours vérifier ce qu'il y a derrière le label. C'est ce qui rend les choses un peu difficiles pour le consommateur. Voilà. Et peut-être un conseil, c'est de toujours laver les textiles avant de les porter, quoi qu'il arrive. Voilà.
Oui, on voulait justement poser cette question, Elisabeth. Donc, est-ce qu'en lavant les vêtements, on élimine une partie ou tous ces produits perturbateurs ou polluants?
Alors, on ne va pas forcément tout éliminer, mais on va déjà éliminer au moins une partie, parce que le lavage va forcément, malheureusement, faire partir les substances ailleurs, dans l'eau, et bon, elles vont finalement nous revenir sous une autre forme un peu plus tard, mais en tout cas, elles vont au moins, elles seront pas sur notre peau en contact direct, et notamment pour les enfants, parce que la peau des enfants donc absorbe bien plus facilement les produits, et puis les enfants ont tendance aussi à mettre à la bouche ces produits-là, et d'ailleurs là-dessus, on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas un alignement des réglementations qui est fait au niveau le plus protecteur. Par exemple, des phtalates, donc des assouplissants du plastique interdits dans des plastiques, des jouets en plastique pour enfants, ne sont pas interdits dans des vêtements qui comportent des imprimés plastiques pour enfants. Donc c'est contradictoire, puisque l'enfant, que ce soit du plastique mou sur un jouet ou sur un vêtement, il aura tendance à le mettre à la bouche de la même manière. Donc là, on voit des incohérences, nous, dans la réglementation qu'on dénonce depuis plusieurs années. Et on aimerait vraiment que ces demandes soient entendues par la France et aussi par l'Union européenne, qui a un poids plus important en termes d'impact au niveau réglementaire.
Donc Elisabeth, donc c'est Élise. Moi j'avais une petite remarque, c'est un moment où j'avais commencé justement à acheter des vêtements en coton bio en me disant que c'était mieux pour la santé de toute vie sur Terre. Et après je sais plus où j'avais eu cette information, mais comme quoi en fait il y a plus de vêtements en coton bio qu'il en est réellement produit. Et du coup j'ai eu l'impression en tant que consommatrice un peu et même citoyenne qui veut être vigilante de m'être un peu fait avoir et l'impression qu'il y a toute une sorte de business et de mensonge derrière les vêtements en coton bio tout ça et du coup je te remercie d'avoir rappelé un petit peu voilà certains labels parce que des fois on a un petit peu du mal à s'y retrouver et à trouver la vérité.
Alors ça, c'est difficile, oui, de trouver le vrai. Il faut pas non plus, après, jeter l'anathème sur l'ensemble des filières. Enfin, c'est toujours difficile parce qu'on sait que, comme dans tout domaine, il y aura aussi des personnes de bonne foi. Il y aura des pionniers qui vont vraiment chercher la qualité et qui vont être encore plus exigeants. Mais malheureusement, le système actuel, en termes de mondialisation, ne leur donne pas leur place et ne leur permet pas, en fait, de progresser suffisamment ou de faire les choses, enfin leur facilite pas en fait les choses. C'est ça. Actuellement, le problème c'est que l'économie prend encore le pas sur les données économiques, prennent le pas sur les données sociales ou environnementales, et donc une fois de plus, il s'agit de faire du business et le produit, la qualité du produit et son impact global passent au second plan.
Elisabeth Ruffinengo, je voulais vous demander justement par rapport à tout ce qui est traçabilité justement, est-ce que vous travaillez avec des organisations internationales à ce niveau-là et sur ce qui se passe aussi dans d'autres pays parce que quand on a ramené autant de vêtements ou d'engins qui viennent d'ailleurs, ça ne doit pas être vraiment très simple d'arriver à contrôler tout ça, même avec des labels, je dirais, ou des choses comme ça.
Oui, alors en fait nous on travaille malheureusement on fait pas de partenariat avec des entités spécialisées sur le contrôle sur la traçabilité, mais on utilise des rapports qui sont faits par des agences comme l'agence suédoise de protection des produits chimiques et donc c'est des données qui peuvent apparaître dans ces rapports. Mais on n'a pas la capacité non plus de travailler sur cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'au niveau un marché d'importation, et surtout comme les textiles qui est vraiment énorme, ça représente toujours, le contrôle sera d'autant plus facile que ce sera des choses qui seront locales, qui seront à petite échelle, taille humaine. Et évidemment, on le voit dans tous les secteurs, que ce soit les jouets, les textiles, l'alimentation, voilà, malheureusement ça s'applique partout. Si le marché est local, s'il y a des entreprises à taille humaine, les gens se connaissent, c'est plus facile de remonter à la source du problème et ça évite en fait aussi l'emballement. Et d'ailleurs, j'avais lu un excellent article du Monde diplomatique sur la situation au Bangladesh et il était tout à fait dit qu'en fait le système, la mondialisation, le système actuel avait favorisé l'emballement des entrepreneurs du pays, c'est-à-dire que c'était tellement facile de faire de l'argent avec les textiles, c'était devenu une vraie manne, et donc ils n'ont pas hésité une seconde, et tout le reste est passé au second plan. Et moi j'avoue que, comme je travaille également sur les aspects plus globaux au niveau international, je suis choquée de voir que on a par exemple des organisations telles que l'OMC, donc l'Organisation Mondiale du Commerce, qui pas plus tard que le 31 mars 2012, donc soit quand même moins d'un mois avant l'effondrement de cette usine au Bangladesh qui a fait quand même plus de 1000 morts, le directeur général de l'OMC félicitait en fait le Bangladesh pour notamment son travail dans le domaine du textile, du prêt-à-porter, puisque dans ce pays, donc le prêt-à-porter, c'est 75% des exportations du Bangladesh. Donc quand on voit qu'une organisation telle que l'OMC, encore 20 jours avant une telle catastrophe, n'a pas vu les signaux ou soit ne veut pas voir, soit nie la réalité sociale et environnementale d'un pays et ne se focalise que sur une croissance basée en fait sur du vent, puisque malheureusement ces populations, si on arrête demain d'acheter des textiles faits au Bangladesh, ça va simplement déplacer le problème dans un autre pays. Donc on va même pas, le système global empêche le progrès de ces populations-là. Et il me semble qu'en plus, comme il s'agit de femmes, La plupart du temps, ces ouvrières dans ces usines sont des femmes qui sont exilées, en fait, de... C'est l'exode rural, donc elles viennent de la campagne. Elles sont seules et elles sont donc à la merci, en fait, d'un marché qui cherche toujours plus de bras. Et nous, on est aussi une organisation féminine et on souhaite vraiment porter aussi ce message-là. Les femmes sont souvent aussi des victimes de cette mondialisation effrénée qui, en fait, ne fait pas la place aux facteurs humains. Et si on peut ajouter quand même une dernière chose, c'est que dans le système international, on a des organisations comme l'Organisation internationale du travail, qui, elle, se préoccupe donc des conditions de travail et qui donc a fait une mission en urgence quelques jours après la catastrophe. Mais malheureusement, c'était encore une fois une réaction à une tragédie. Donc on a l'impression qu'il faut toujours attendre une catastrophe de dimension toujours plus importante pour que ici, c'est des déclarations qui ont été prises. Pour l'instant, il n'y a rien dans les faits. Donc c'est toujours un peu, un peu décourageant de voir que en 2013, on en est encore à ce stade-là, malgré tout système international qui existe.
Elisabeth Ruffinengo, il y avait aussi, c'est amusant d'ailleurs là-dessus, parce qu'il y a eu une intervention donc de Pascal Lamy, le directeur général donc de l'OMC, donc qui est issu du Parti socialiste. D'ailleurs, c'est amusant. Donc lui, il avait dit qu'il ne pouvait pas. À un moment, il y a une déclaration, il dit « Moi, je ne savais pas par rapport à la catastrophe du Bangladesh. » Il dit « Je savais. J'étais au Bangladesh il n'y a pas très très longtemps, donc avant ce grand drame. » Et il avait dit que ce drame ne serait pas arrivé si le Bangladesh n'était pas spécialisé dans le textile. Mais avant, il était spécialisé dans la pauvreté. Donc il prend un argument vraiment assez... incroyable, en fait, justement, pour se dédouaner un peu de ce qui se passe, s'est passé là-bas, enfin au niveau de l'OMC, du moins, et en remettant justement la faute, en plus dans ce qu'il disait sur l'Organisation internationale du travail, en disant que l'OMC n'y est pour rien.
Mais moi, ce que je veux juste dire quand même, c'est qu'on voit que ces institutions, malheureusement, qu'il s'agisse de l'OMC ou du FMI ou ce genre d'institutions, peuvent faire d'énormes erreurs en termes d'analyse, mais qu'elles n'en sont pas pénalisées. Par contre, les ouvriers d'une usine, eux, sont pénalisés et vraiment de manière radicale, puisqu'en l'occurrence, il y a eu quand même plus de 1000 morts. Donc on a envie quand même de dire qu'en 2013, si les experts d'une institution telle que l'OMC ne sont pas capables d'analyser les choses avec les moyens qu'ils ont, c'est absolument ahurissant. D'autre part, la différence quand même entre les règles commerciales internationales et les règles du droit du travail, c'est que si un pays ne respecte pas le sacro-saint libre-échange qui a été quand même imposé aussi à beaucoup, beaucoup de pays, on a des moyens de coercition puisqu'il y a un organe de règlement des différends à l'Organisation mondiale du commerce et on peut prendre des mesures coercitives. En cas de non-respect de règles sociales de base, il n'y a pas de moyens de coercition. Donc là aussi, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Les règles, en fait, si vous voulez, au niveau international, qui sont vraiment efficaces, c'est malheureusement lorsqu'il y a des sanctions. Et dans le domaine commercial, elles sont faciles à mettre en œuvre et elles sont mises en œuvre. En termes de dumping social, ce genre de choses, il n'y a pas de sanctions. Donc ça n'encourage pas les pays à faire plus attention. Au contraire, il y a un double discours. À la fois, l'OMC félicite le Bangladesh et à la fois, ensuite, va verser une larme en disant que... donc moi, je trouve ça totalement inacceptable de la part de dirigeants d'institutions qui se veulent sérieuses et qui ont quand même une flopée d'experts à leur service pour réaliser un travail qui devrait quand même être très sérieux.
Elisabeth Ruffinengo, est-ce que vous pouvez justement, pour finir, parce que là on va devoir finir l'interview, nous parler un peu de la pétition que vous avez sur votre site internet et trouver des informations sur le WECF et cette pétition.
Oui, alors la semaine dernière avec un groupe de 27 associations, on a lancé un manifeste qui demande à la France d'agir sérieusement sur le thème des perturbateurs hormonaux. Et donc on a lancé cette pétition pour soutenir ce manifeste. Donc cette pétition peut être signée sur un site qui s'appelle Stop au PE. Donc c'est PE pour perturbateurs endocriniens. Et parmi les partenaires qui travaillent avec nous, il y a notamment le réseau Environnement Santé qui travaille sur tout ce qui est santé et environnement. Vous avez aussi des organisations spécialisées sur certains aspects comme Génération Future qui travaille sur les pesticides depuis de nombreuses années et qui dénonce par exemple la contamination des pesticides au niveau alimentaire. Vous avez également donc des associations de protection de l'environnement comme le WWF ou encore d'autres comme le CRIO qui travaille sur tout ce qui est pollution de l'eau, des associations plus locales, des associations de jeunes également. Donc c'est vraiment 27 associations assez assez variées. Donc le grand public est invité à soutenir ces demandes puisque le soutien en fait du public ça amène à nos associations un poids supplémentaire au niveau des négociations. Et si vous connaissez des associations qui pourraient être intéressées pour rejoindre ce manifeste, elles peuvent également nous contacter donc à travers notre site qui est www.projetnesting.fr, donc nesting c'est nesting.fr. Voilà.
Merci Elisabeth Rofinengo donc de WECF. Merci encore. Puis on relayera en tout cas l'information sur notre site internet.
Oui, donc notre site internet, vous pouvez y retrouver notamment toutes les anciennes émissions qui sont en écoute permanente. Donc c'est www.zoom-ecologie.net. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des idées pour des émissions, si vous voulez donner des réponses et des réflexions sur ce que nous avons dit. Évidemment, on n'a pas touché à tout le sujet. Il y a énormément de choses qu'on aurait pu dire à propos des vêtements. Est-ce que vous avez envie de dire deux, trois petites choses maintenant au sujet ou on passe directement à l'agenda?
Merci en tout cas, Elisabeth Rofinengo.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Oui, au revoir.
Alors, on va passer à l'agenda, du coup. Merci, Rebecca. Alors, rapidement, deux petites informations. Donc, le samedi 6 juillet a lieu à Pantin, organisé par Pantin en transition, une balade autour de différents lieux en transition. Donc, je n'ai pas les informations logistiques et pratiques à portée de main. Mais
ça veut dire quoi, transition ?
Transition, c'est pour une transition écologique, énergétique et...
Solidaire.
Donc c'est à Pantin, donc le samedi 6 juillet à 10h30, donc balade de la transition. Rendez-vous au 73 bis avenue Jean Lolive, métro Hoche. Donc il y a une livraison donc alimentaire par bateau, un jardin de voisinage, une récup sur le marché et des utopies concrètes.
Oui,
pour un monde. Il faut prévoir un pique-nique quand on vient.
Donc c'est à 10h30. Tu as dit rendez-vous.
73 bis avenue Jean Lolive, métro Hoche.
Voilà. Et normalement, il y a dans le coup Clément de notre groupe La Bande à Bébert.
Un envoyé très très spécial, son nom.
Voilà, un envoyé très très spécial. Et enfin, petite information, on vous avait parlé avec Raled il y a très longtemps de l'Ecotopia Bike Tour qui a lieu chaque été. Donc, c'est un tour à vélo en Europe pendant 3 mois. Qui fonctionne sur le mode de l'autogestion, le partage des tâches, etc. Et donc c'est un tour où chaque étape se fait dans un lieu alternatif, enfin un lieu d'alternative. Et donc cet été, il part le 12-14 juillet de Berlin et va en direction de l'Europe de l'Est. Voilà, donc vous pouvez retrouver les informations sur ecotopiabiketour.net. Donc nous, on l'a fait une semaine avec Raled l'année dernière. C'était vraiment très très sympa, très instructif, très enrichissant. Et je conseille à tout le monde d'aller pédaler avec l'Ecotopia Bike Tour.
Si vous avez un enregistreur avec vous, vous pouvez faire un reportage et nous envoyer vos émissions.
Voilà.
Et puis, juste, on ne l'a pas dit la dernière fois, mais on est toujours ouvert et intéressé à des nouvelles personnes qui veulent rejoindre notre équipe.
Ouais.
On a 4 émissions par mois à gérer, donc du nouveau son. Vous êtes toujours bienvenus. Vous pouvez nous contacter à travers le site internet de la radio ou alors de notre site internet zoomecologie.net.
Merci, Rebecca. Donc, on va devoir rendre
l'antenne. Bon, on vous laisse donc avec HK et Saltimbanque, avec une chanson donc, qui rime bien avec notre émission qui s'appelle Niquons la planète.
Allez, salutations
écologiques et solidaires.
Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades, disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire, où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre, qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien, faisons pas les choses à moitié. Vu que de façon on va tous crever, un seul objectif en tête.
Et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés.